Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est le cerf la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, volémie et ton fuchsie. C'est tout ton vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec toi à tête. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
Paniquez pas,
niquez-vous.
102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez-vous. Attends, paniquez pas,
niquez-vous.
Paniquez pas, niquez tout.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et bien sûr au Canu Info du vendredi. Il est 19h03 et on va commencer normalement ce Canu Info par une insert téléphonique, une question très technique pour pouvoir vous parler de l'occupation du collège Barbus à Vaux-en-Velin.
On continuera ensuite avec des militantes et militants kurdes qui sont ici à la radio sur le plateau et qui nous parleront des arrestations politiques en Turquie et d'un appel à rassemblement demain pour les luttes kurdes.
Ensuite, on parlera de la répression à Radio Canu d'il y a une semaine et de la répression d'autres médias pour faire le lien du coup de ce qui se passe par rapport aux médias qui sont un peu alternatifs et rebelles.
Et ensuite, on passera au national en parlant du décret qui a été publié lundi au journal officiel et qui crée un fichier unique et biométrique pour tous les titulaires d'une carte d'identité ou d'un passeport.
Ensuite, il y a encore quelques permanences du PS qui ont été attaquées cette semaine. On fera un point là-dessus.
Et puis on ira dans notre rubrique migration pour suivre l'expulsion à Calais.
Et puis on parlera enfin de la mobilisation pour loger des migrants et migrantes dans la vallée de la Roya.
Pour finir avec l'agenda.
Et c'est parti.
C'est parti.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh, putain.
Oh. Petit problème technique dans nos jingles qui se sont encore une fois mélangés.
On va les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
En Europe, la même question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
bien, de retour dans les studios, puisqu'on n'a pas encore réussi à passer notre coup de téléphone, mais du coup, il n'est que décalé. Et donc, on vous parlera de l'occupation du collège Barbus dans une vingtaine de minutes. Et donc là, de retour dans les studios, on a de la chance d'avoir des personnes de la maison de la Mésopotamie pour pouvoir parler de ce qui se passe en ce moment en Turquie. Mais justement, qu'est-ce qui se passe en Turquie en ce moment ?
Öncelikle merhaba Radyo Kanyu dinleyicilere.
Pour commencer, on vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Merci.
Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tamamen faşist sivil bir darbe devreye girmiş bulunmaktadır.
Après le coup d'état manqué en Turquie le 15 juillet, un coup d'état civil a pris départ, un coup d'état civil bien fasciste.
Bu çerçevede seçilmiş birçok belediye başkanı görevden alınmıştır.
Dans les territoires kurdes, plusieurs maires élus ont été remplacés par ses collaborateurs sympathisants du AKP.
En son bir hafta önce Ahmet Büyükşehir Belediye eş başkanları Sayın Gültan Kışanak ve Fırat Anlı cezaevlerine konulmuşlardır.
Dernièrement, il y a une semaine, les maires de la ville de Diyarbakır ont été emprisonnés.
Onunla birlikte onlarca basın yayın kuruluşu, gazete, haber ajansı kapatılmıştır.
Et en même temps, plusieurs médias, plusieurs journaux ont été fermés.
Onlarca gazeteci şu anda cezaevlerindedir.
Plusieurs journalistes sont maintenant emprisonnés.
En son Türkiye'nin en eski gazetelerinden olan Cumhuriyet gazetesine baskın yapıldı ve onlarca gazeteci gözaltına alındı.
Dernièrement, c'était pour le journal Cumhuriyet qui s'appelle La République qui a été fermé et maintenant ils sont emprisonnés.
Sayısı 10 binleri bulan öğretmen görevden alındı.
Des milliers de professeurs d'université, de lycée est maintenant emprisonné.
Binlerce sağlık emekçisi keza görevlerine son verildi.
Des travailleurs de santé est aujourd'hui aussi en prison.
Bu çerçevede Türkiye'de muhalif her kim varsa susturulmak istenmektedir.
Dans ce cadre-là, tout opposant est
en danger.
Ouais, voilà. En fait, ils veulent donner un vrai silence à tout opposant.
Parce que j'ai l'impression que là, les répressions qu'il y a eu dernièrement, c'était beaucoup sur l'HDP. L'HDP, oui. C'est un parti politique en Turquie aussi qui défend la cause kurde.
Oui, tout à fait.
En son, dün gece yarısı itibariyle HDP milletvekillerine yönelik bir gözaltı ve tutuklama furyası başlatılmıştır.
Ben ça a commencé hier soir en fait. Tout maire, toutes les personnes élues par le peuple se fait emprisonner par en garde à vue.
Bu çerçevede Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere evlerinden kapıları kırılarak gözaltına alınmışlardır.
Alors les premiers ça a été Selahattin Demirtaş qui est le président de cette partie du HDP a été emprisonné hier en le
il a été cherché chez lui, c'est ça?
Oui, chez lui en cassant la porte de sa maison carrément et maintenant, bah, il est en prison, il est emprisonné.
Donc ça, c'est que les principales personnes du parti, du coup, de l'HDP sont emprisonnées.
Oui.
Et du coup, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur l'HDP? Qu'est-ce qu'il défend?
HDP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 81 milletvekiliyle Türkiye'de parlamentoda temsil edilen bir parti.
Le HDP, le 7 juin 2015, normalement avec 81 électeurs étaient au, à l'Assemblée, mais...
Ancak bilindiği üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Haziran seçimlerini kabul etmemiştir.
Mais le président de la Turquie Erdoğan n'a pas accepté ces élections.
Oui. Onun sonucunda 1 Kasım 2015'te tekrar seçime gidildi Türkiye'de.
Et pour cela le 1er novembre 2015 la Turquie est partie aux élections pour la deuxième fois.
Bu seçimler öncesinde Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik birçok baskı uygulanmıştır.
Juste avant ces élections, la partie HDP a rencontré beaucoup de force par l'État turc.
Birçok bürosu polis tarafından basılmış.
Plusieurs de ces bureaux a rencontré des
ont été détruits, non?
Ont été perdus. Oui, oui, mais par l'État, par la police turque.
Mitinglerinde bombalar patlatılmış.
Pendant les meetings du HDP pour les élections, il y a eu plusieurs bombes explosées, des attentats.
Birçok çalışanı gözaltına alınmış ve cezaevlerine konulmuştur.
Des travailleurs du HDP sont aujourd'hui plusieurs en prison et en garde à vue.
Bununla tamamen antidemokratik olan Türkiye'deki %10 seçim barajının altında bırakılmak istenmiştir HDP.
Et en fait en faisant ça leur objectif c'était de laisser le HDP en dessous des limites pour qu'il ne puisse pas passer les élections. Et c'est carrément quelque chose de anti-démocratie, quoi. C'est,
voilà. Ouais, du coup, de ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu énormément de répression sur ce parti-là pour qu'il ne puisse pas se présenter et pour qu'une fois aussi dans l'Assemblée, il ne puisse pas avoir la parole. Et aujourd'hui, c'est des personnes qui sont arrêtées, qui sont arrêtées parce que du coup, on les accuse de soutenir le PKK sans aucune preuve. Le PKK, du coup, c'est une organisation qui lutte pour le Kurdistan et qui est classée comme organisation terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis et beaucoup de pays de l'Union européenne. Mais alors, à ce moment-là, c'est quoi un peu l'objectif au fond de l'AKP? Du coup, l'AKP, c'est le parti d'Erdoğan, du coup, le parti au pouvoir.
AKP, bilindiği üzere sağcı, milliyetçi ve tamamen mezhepçi bir partidir.
Alors, comme on sache, le AKP est carrément une partie de droite, mais fasciste. Et une partie, en fait, soi-disant, qui est là pour sa religion, qui est là pour protéger sa religion, mais...
Parce que du coup, ce que j'avais l'impression aussi, c'est que l'armée turque, non contente d'emprisonner beaucoup de personnes du HDP, mais aussi énormément de journalistes, de faire fermer des journaux, d'enfermer des professeurs, elle envoie aussi son armée. Et du coup, elle est actuellement présente en Irak et au Rojava. Du coup, c'est une politique vraiment large, là, de pression par les forces policières, par l'arrestation, mais aussi par une présence armée sur beaucoup de territoires.
AKP, DAEŞ, El-Kaide, El-Nusra ve benzeri terör örgütleriyle ilişkisi birçok kesim tarafından bilinen bir gerçektir.
Aujourd'hui, le monde entier sait que l'AKP a des relations avec DAEŞ, avec El-Nusra et El-Kaide.
Bundan birkaç yıl önce AKP amaçlarını, emellerini bu terör örgütleri eliyle gerçekleştirmek istiyordu.
Pendant des années avant cela, des années précédentes, l'AKP voulait faire tout ce que aujourd'hui DAEŞ fait avec ses propres mains.
DAEŞ'in özellikle Kürt savaşçılara karşısında Kobane'de yaşadığı yenilgi AKP'ye yaşatılmış bir yenilgiydi.
aujourd'hui, la perte qu'il a reçue, Daesh à Kobané, au Rojava, en se battant contre les soldats kurdes, eh ben, c'est une perte aussi pour AKP.
Onun için Türkiye'de bir süreden beri, yaklaşık 3 yıldan beri süren çatışmasızlık sürecine AKP tamamen son vermek durumunda kaldı.
Pendant 3 ans en Turquie, il n'y avait aucune arme, aucune guerre, les Kurdes, le PKK et entre les Turcs, entre l'État turc, on avait signé une paix. Et le AKP, c'est après ces 3 ans-là, il a fini tout ça et il a bombardé tout partout.
Bugün DAEŞ'le mücadele ediyorum adı altında Rojava'da işgalci bir konumda bulunmaktadır.
Aujourd'hui, ils disent le AKP, ils disent que on se bat contre Daesh, mais c'est pas du tout le cas. Il est là-bas pour aider Daesh.
Fakat Türkiye hiçbir zaman DAEŞ'le ne çatıştı ne de ona karşı herhangi bir mücadele etti.
Et en preuve, il a jamais fait la guerre contre eux. Il a jamais eu une attaque militaire contre eux.
Türkiye ordusunun Rojava'da bulunma gerekçesi tamamen Kürtlerin bir statü elde etmesini engellemek amaçlıdır.
La Turquie se trouve au Rojava pour que les Kurdes n'ont pas de statü.
Bugün aynı dönemde Irak Kürdistan'ında da askeri güçlerini bulundurmaktadır Türkiye.
Et aujourd'hui il a ses forces aussi en Irak.
Et du coup, comment est-ce que les Kurdes arrivent à combattre cette présence territoriale aussi qui empêche ce Kurdistan qui est, on sait, une partie en Irak, une partie en Turquie, une partie en Syrie, de se former? Et que veulent les Kurdes aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils arrivent à répondre à ces attaques militaires du AKP?
Kürtler bugün bulundukları her alanda kendi demokratik haklarını kullanarak mücadelelerine devam edeceklerdir. Devam etmektedirler.
Aujourd'hui les Kurdes vont continuer à demander leur indépendance et vont continuer à donner cette guerre pour leur indépendance.
Bulunduğumuz her alanda sesimizi mümkün olduğu kadar bütün dünyaya mücadelemizle duyurmaya çalışacağız.
À tout endroit qu'on vit, on va faire entendre notre voix.
AKP'nin faşizan siyasetine, faşist politikalarına hiçbir zaman için boyun eğmeyeceğiz. AKP'nin faşizmine teslim olmayacaklardır Kürtler.
Les Kurdes ne vont pas se baisser la tête contre la politique fasciste du AKP et d'Erdogan.
Zaten dün akşamdan beridir Kürtler bulundukları her alanda ayaktadırlar ve demokratik bir şekilde tepkilerini dile getiriyorlar.
Comme on le voit depuis hier soir, les Kurdes se rebellent partout, en Turquie surtout, oui. Et pour demander démocratiquement leurs droits.
Oui, parce que du coup, on a vu, il y a déjà eu des rassemblements à Nantes aujourd'hui pour protester contre ces attaques, notamment cette vague d'arrestation qu'il y a eu en Turquie. Et du coup, il y a un rassemblement demain aussi.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce qu'il est et à quelle heure?
Oui, kesinlikle. Biz de Lyon'da bulunan Kürtler olarak tepkimizi demokratik bir şekilde ortaya koyacağız. AKP'nin faşizmine dur diyeceğiz. Bu çerçevede bütün dostlarımızı, bütün dünya devrimcilerini, demokratlarını, sosyalistlerini duyarlı olmaya çağıracağız.
Alors, demain, on appelle tous les Kurdes de Lyon, demander démocratiquement leurs droits en ville même.
Et du coup, le rendez-vous, il est devant le consulat de Turquie. C'est rue de 16 dans le 6e arrondissement. Et il est à 14h, je crois. Du coup, rendez-vous à toutes et tous, soutien kurde, devant le consulat de Turquie, rue de 16, demain à 14h, pour protester contre la politique plus qu'autoritaire du président Erdogan en Turquie. Et pour finir, du coup, est-ce que vous voulez nous dire...
Sadece Kürtler değil, bütün çağrımız bütün insanlaradır. Lyon'da yaşayan antifaşist, socialiste, communiste, bütün kesimleredir.
On n'appelle pas non seulement les Kurdes, mais on appelle tous les antifascistes, anticapitalistes qui vivent à Lyon.
Bugün Kürt halkının yanında olmak, Kürt halkının sesine kulak vermek bir insanlık görevidir.
C'est une responsabilité humaine de donner, de entendre la voix des Kurdes aujourd'hui. Moi, dernièrement, je voudrais dire la partie du HDP est soupçonnée de collaborer avec le PKK. Mais est-ce que défendre un peuple qui les a élus, défendre sa langue, ses origines, ses terres, fait d'eux des terroristes? La Turquie occupe une place stratégique au sein du Moyen-Orient. De sa fait, la communauté européenne ne prendra pas les risques de mettre à dos le gouvernement d'Erdogan en protégeant le peuple kurde par des actions plus concrètes et radicalement qu'elles ne le sont actuellement.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci.
Je pense qu'on a été très contents que vous soyez dans les studios et aussi expliciez une situation qui est complexe et qui est surtout très très maltraitée par les médias. Et ça a été un grand plaisir de vous recevoir ce soir.
İdem, merci à vous.
Biz Radio Canyon'a teşekkür ediyoruz sesimizi dinledikleri için.
On remercie Radio Canyon.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
On rappelle peut-être le...
Et on rappelle le rassemblement demain à 14h devant le consulat de Turquie, 76 rue 16, je crois, dans le 6e arrondissement.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable
vis-à-vis des personnes en situation
difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
Je voudrais qu'on ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici
et
dans les agendas de ces
en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. En chantant résiste.
Et voilà, donc du coup, un petit problème avec l'insert téléphonique pour parler du Collège Barbus avant Evelyn, mais vous êtes toujours dans le Canu Info du vendredi soir et on va vous en parler quand même parce que nous, au Canu Info du vendredi soir, on n'a pas peur de la technique. Et alors, qu'est-ce qui se passe au Collège Barbus? Eh bien, depuis le 3 novembre, donc c'est-à-dire jeudi, les personnels du Collège Henri Barbus, donc à Vaux-en-Velin, occupent le rétablissement. Pourquoi? Bah, comme toutes les années à l'approche de l'hiver, eh bien, parce que des familles dont les enfants sont scolarisés au sein du collège n'ont pas de logement. Donc ça fait depuis 3 ans qu'il y a des problèmes au sein de ce collège, notamment ça fait 3 ans à la suite qu'ils occupent. Ils ont déjà, eux, interpellé dès avant les vacances les pouvoirs publics pour leur dire que ben, là, on a des familles qui sont expulsées de leur logement, voilà, il y a des familles qui vont se retrouver à la rue. Personne n'a réagi et donc du coup, ben, eux ont décidé du coup d'occuper les locaux du collège pour demander le relogement de ces familles. Ils précisent qu'il y a quand même juste, rien que dans leur collège, 3 locaux, c'est marrant, il y a 3 familles qui sont vides, il y a 3 logements de fonction qui sont vides au sein du collège et qui ne demandent qu'à du coup être occupés par ces familles. Et il y a juste à côté, à Villeurbanne-Saint-Jean, 6 logements de fonction qui sont aussi vides depuis 3 ans. Donc on rappelle qu'à Lyon, par exemple, au 115, il y a 2000 demandes par jour qui sont... 2000 personnes qui demandent et qui n'ont pas de réponse d'hébergement sur la nuit et qu'il y a plus de 20 000 logements vides à Lyon. Et voilà, on espère avoir des nouvelles d'elles très vite. Et on peut passer à la répression à Radio Canu.
Et la répression de Radio Canu, on va commencer par en parler en lisant le communiqué de la radio qui a été un produit. Donc ce communiqué commence comme ça. Le mardi 25 octobre 2016, Radio Canu a été perquisitionné dans la matinée. Cinq flics de la police judiciaire et une procureure sont venus saisir l'enregistrement d'une émission du jeudi 20 octobre où deux animateurs ont fait une blague entre deux morceaux de musique punk. Voici la blague.
En ce moment, il y a une manif de flics à Bellecour. Avis à tous les suicidés, avis à tous les suicidaires, que votre dernier acte de vie soit utile. Faites-vous sauter dans la manif des flics. Et on vous fera un bel enterrement avec une belle boum. Suicidés, suicidaires, organisez-vous. Oh, mais ils sont là pour nous protéger quand même.
Ces propos ont été tenus sur les ondes du 102.2 au second degré. C'est de l'humour, coucou. Confondre terrorisme et satire est malheureusement apparemment de mise dans une période d'état d'urgence. Pour prendre un exemple, dans Cambouis, un fanzine édité par Luz au lendemain du 21 avril 2002 et donc de l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen, il avait prêté ses propos à Charb, je cite « Si j'apprends que j'ai un cancer, j'achète une calache, je vais dans un meeting du FN et je me tire dans le tas ». À l'époque, ni Luz ni Charb n'avaient été poursuivis en justice.
Voilà, qualifié en terrorisme, ces faits montrent le climat de paranoïa et ouvrent la voie à une répression accrue et ciblée contre les médias alternatifs. Rebelle, sans publicité, sans salarié, Radio Canu ne demande son CV et ses papiers à personne et fait faire le ménage à tout le monde. Radio Canu est et restera un espace où s'exprimer en dehors des codes de la bienséance académique. Et alors attention,
longue vie à Radio Canu.
Alors Radio Canu n'est pas le premier média à être condamné pour avoir tenu des propos ironiques sur ce qui a pu se passer.
On va revenir un peu sur quelques affaires qui ont touché d'autres médias par le passé, plus ou moins récemment. Et avant ça, on va vous passer un petit extrait d'une...
Voilà, avec mon micro ouvert, c'est beaucoup mieux. Et je pense qu'il était fermé tout à l'heure, a priori, je sais pas. On va revenir un peu sur quelques autres médias qui ont subi également une répression. Mais avant ça, on va vous passer un petit extrait d'un discours qu'a tenu Hortefeux en 2010.
Et puis, il y a plus grave encore. Et donc, je vous annonce que j'ai porté plainte, je l'ai décidé hier, pour injure et diffamation publique contre deux sites internet dont le contenu porte atteinte à l'honneur de la police. Et les policiers y sont traités, je cite, de troupes d'assassins. La BAC y est qualifiée de bande armée de criminels. Et on y parle notamment de ces poulets qui assassinent. Et là, ces insultes-là, je n'en veux plus. Et j'ai donc décidé, en liaison avec le directeur général de la police et le directeur général de la gendarmerie, de systématiquement demander à ce que l'on attaque ces sites. Et je souhaite que l'on traîne systématiquement devant les tribunaux et ceux qui insultent, les policiers et les gendarmes qui ont la responsabilité d'assurer la protection de nos compatriotes.
Donc voilà, ça c'était Hortefeux en 2010, qui attaquait en justice, qui affirmait son intention d'attaquer en justice donc le Jura Libertaire et Indymedia Grenoble. Donc pour revenir un peu sur cette histoire, donc déjà le Jura Libertaire c'est un blog d'information, de diffusion, d'expression, etc. D'infos, pas que sur le Jura du coup, malgré son nom. Donc voilà, qui existe depuis 2006. Donc, alors cette histoire de plainte, ça remonte à l'été 2010, lorsque un jeune braqueur est abattu dans le quartier de la Villeneuve d'une balle dans la tête par la BAC. S'en est suivi plusieurs jours d'un véritable état de siège. Donc hélicoptère, unité de force mobile du RAID et du GIPN. Donc il y avait à peu près 300 personnes. En termes de flics. La Villeneuve s'est retrouvée isolée du reste de la ville, notamment en raison de l'arrêt du tram. Et donc à l'époque, Indymedia Grenoble, qui est un site d'information participatif à Grenoble, et le Jura Libertaire avaient relaté les exactions policières qui avaient été perpétrées là-bas. Donc il y a eu plusieurs articles avec des témoignages décrivant le malaise des habitantes et des habitants de là-bas, et ainsi que l'horreur policière. Et donc suite à ça, Hortefeux porte plainte contre ces deux sites. Le Jura et donc ils sont désignés comme hostiles à la police, comme deux sites hostiles à la police. Donc plus exactement, ils ont été ciblés pour injures et diffamation publique contre la police. Donc, comme on a entendu sur l'extrait, Hortefeux dit oui, c'est pas normal, les policiers sont traités de troupes d'assassins, la BAC est traitée de bande armée de criminels, etc. Alors, cette affaire, pour Grenoble, il n'y a pas eu de plainte effective au final. Par contre, pour le Jura libertaire, ça a été une autre histoire. L'affaire a couru jusqu'au début 2014, où le plaignant n'était plus Hortefeux, mais Valls, parce que c'était le ministre de l'Intérieur. Et donc, après à peu près 3 ans d'enquête, le coup retombe pour le Jura libertaire. Il y a un procès qui est d'abord fixé en novembre 2014, qui va être reporté en mai 2015. Où là encore, ça a changé, c'est Bernard Cazeneuve qui sera derrière ça. Et le verdict de ce procès de mai 2015, ça a été une amende de 100 euros pour avoir employé le terme d'assassin, qui pour eux sous-entendait une préméditation. Voilà. Et donc, voilà, c'était pour faire un retour là-dessus sur cette affaire. Voilà.
Alors, des affaires comme ça, il y en a quand même malheureusement beaucoup. En 2013, c'est un petit peu comme à Radio Canus, c'est à cause de propos ironiques sur la police que Manuel Valls, à l'époque ministre de l'Intérieur, a poursuivi Amal Bentoussi. Donc Amal Bentoussi, c'est la sœur d'Amine Bentoussi qui a été tuée d'une balle dans le dos par un policier en 2012. Alors en cause, le fait qu'elle ait publié sur le site d'Urgence Notre Police Assassine un clip qui parodiait un clip de recrutement de la police de la manière suivante, je vous la lis. Vous voulez commettre des crimes en toute impunité sans jamais être inquiété par la justice ? Prêt à tuer sans être en état de légitime défense ? Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes coupable, on s'arrangera pour que vous ne le soyez plus. Alors, n'attendez plus, la police est le meilleur des métiers pour être au-dessus des lois. Le ministre de l'Intérieur de l'époque avait manifestement pas d'humour et il a porté plainte pour diffamation. Alors, Amal Bentoussi a été relaxé en 2014 par le tribunal de grande instance de Paris. Le meurtrier de son frère, lui, a aussi été jugé 2 ans plus tard, en janvier 2016, et il a été acquitté. Les parties civiles ont fait appel. 2 poids, 2 mesures.
Voilà, et on enchaîne sur une autre affaire qui a concerné en 2015 donc le site d'info Yatta. Donc l'affaire a fait un peu de bruit. Il y a une personne qui était accusée d'être le directeur de publication de ce site. Et donc risquait 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende du fait d'un texte qui a été considéré comme un appel à la provocation de crimes et délits. Donc cette affaire, ça a commencé le 2 mars 2015, donc le lendemain de la parution de cet article qui s'appelle 21 février, Lapin de Garenne, acte 2. Et donc c'est dans cet article, en fait, il y avait des conseils de protection contre les filles et des réflexions sur ce qui pouvait être fait collectivement, etc. Et donc après 2 mois d'enquête, 10 heures de garde à vue, 9 semaines d'attente sur le procès, et ben l'affaire a été annulée. Le procureur, il a dit ça au procès, il a dit « j'abdique ». Donc voilà. Donc tout le monde s'est dit bon bah ok, on rentre chez nous. Donc même si c'est quand même une bonne nouvelle, en fait ça enlève quand même une victoire, et puisque la défense avait été assez bien préparée, tant en ce qui concernait donc la demande abusive de prise d'empreinte qui a été faite, que sur la défense de la liberté d'expression et sur le caractère atypique aussi des médias collaboratifs tels que Yatta, où il n'y a pas de personne désignée responsable, etc. Et donc en fait un jugement favorable, ça aurait pu faire jurisprudence en tout cas pour ce type d'affaires. Et là, ils ont préféré botter en touche et dire on annule tout plutôt que de se retrouver avec une jurisprudence qui du coup voilà. Donc c'est un peu voilà. Ça, c'était pour le cas de Yatta, donc c'était en 2015.
C'est à son courage qu'on reconnaît la justice. Et donc revenons à ce qui s'est passé tout récemment, donc avant l'affaire de Radio Canu, ou juste en même temps en fait, qui concerne pour le coup un journaliste. Donc en fait le 26 octobre, c'est le journaliste Gaspard Glantz, hein, qui appartient à l'agence de presse Taranis News, qui a été interpellé pour s'être moqué de la police. Alors en cause, une photo où il s'amuse d'un talkie-walkie des CRS qu'il a trouvé par terre et qu'il qualifie de prise de guerre, et un commentaire Facebook sur une photo prise un peu plus tôt à Rennes de Baqueux qui légendait du slogan hitlérien « Ein Reich, ein Volk, ein Führer ». Alors la police n'a vraiment pas d'humour et a porté plainte pour, dans le premier cas pour vol de talkie-walkie, alors qu'il l'avait laissé tomber par terre, et dans le second pour injure publique. Alors, Gaspard Glantz a passé 33 heures en garde à vue. La justice n'a pas d'humour non plus. Il est ressorti avec deux convocations au tribunal, une pour chaque affaire en janvier et en mars 2017. Il est aussi ressorti sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire avec une interdiction de séjour dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, où se situe Calais, et l'obligation de se présenter à Strasbourg tous les samedis, ce qui l'empêche grosso modo de faire son travail. Ce contrôle est prévu, je cite, « jusqu'à la fin de l'état d'urgence ». Alors le problème, c'est qu'aucune date n'est vraiment déterminée pour la fin de l'état d'urgence, donc bon courage à lui. Et briser cette interdiction est quand même passible de 75 000 euros d'amende et de 6 mois de prison. Donc on joue pas trop. Alors Glantz n'est pas un camarade, hein, ils vendent des clichés de manifestations non floutées à de nombreuses chaînes de TV, mais la répression qu'ils exercent sur lui reflète bien le climat ambiant avec les flics. Il faut surtout pas en dire du mal, on le fera plus jamais.
Ouais, heureusement.
Ou pas.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale. Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. National.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Un décret publié au Journal officiel dimanche 30 octobre, et oui, on publie des décrets le dimanche, autorise la création d'un fichier regroupant les informations biométriques et l'ensemble des détenteurs de passeports ou de cartes d'identité âgés de plus de 12 ans. Ce texte autorise la création de fichiers, du fichier pardon, des titres électroniques sécurisés, c'est le nom de ce fichier appelé TES, titre électronique sécurisé, regroupant les données biométriques de l'ensemble des détenteurs de passeports et de cartes d'identité, soit à terme pas moins de 60 millions de personnes n'ayant d'ailleurs commis aucune infraction. Ainsi, ce sont bien tous les citoyens qui seraient et sont vont être fichés, à l'exception de celles et ceux qui ont moins de 12 ans. Officiellement, il s'agit de lutter contre la fraude et la falsification de documents, mais en réalité, c'est un bien nouvel outil de surveillance généralisée de la population qui vient d'être entériné et qui s'inscrit dans le long arsenal sur lequel peut s'appuyer la police et son gouvernement. Jusqu'à présent, n'étaient fichés que les seuls détenteurs d'un passeport biométrique, c'est-à-dire un passeport délivré après le décret du 30 avril 2008, relativement récent, et équipé d'une puce électronique. Dans celle-ci, dans cette puce, et donc dans ce passeport biométrique, sont stockées depuis 2008 toute une série de données personnelles permettant d'identifier son possesseur, notamment le nom, l'âge, le sexe, la couleur des yeux, la taille, le domicile, les données relatives à la filiation, les données relatives au document en lui-même, c'est-à-dire la date et le lieu de délivrance, la date d'expiration, etc., etc. Ainsi que des images numérisées de la photo d'identité et de deux empreintes digitales. Ça fait quand même beaucoup d'informations compilées dans ces passeports biométriques depuis 2008. Et bien, toutes ces données seront désormais reversées directement dans ce nouveau titre électronique sécurisé, le fameux TES qui vient d'être validé par le décret de dimanche dernier. Et en plus de toutes ces informations, on trouvera désormais toutes les données qui vont être collectées pour élaborer les nouvelles cartes d'identité. Cette numérisation et cette centralisation des données biométriques listent donc lui aussi couleur des yeux, taille, image numérisée du visage, empreinte digitale, adresse mail et numéro de téléphone, rien que ça. Ces données seront conservées pendant 15 ans pour les passeports et 20 ans pour les cartes nationales d'identité. Un fichier unique, donc comme dans les mauvaises dystopies. Un même projet présenté par le gouvernement Fillon avait pourtant été déjà retoqué par le Conseil constitutionnel en 2012. Ainsi, le nouveau décret de dimanche dernier, pour éviter lui aussi de se faire retoquer, autorise uniquement l'authentification des demandeurs et non leur identification.
Subtilité.
Alors, quelle est cette subtilité ? Ça permettra de vérifier l'identité avancée par le demandeur en comparant automatiquement ses empreintes digitales avec celles déjà enregistrées à son nom, par exemple, et non de rechercher l'identité d'une personne à partir de ses données biométriques. Donc, vérifier et non pas rechercher l'identité. Le décret prévoit ainsi que le fichier ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage ou de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer les empreintes digitales de quelqu'un et ensuite accéder directement à l'ensemble des données qui ont été stockées sur son profil. Et vous pouvez simplement, a priori, vérifier si elles correspondent bien à celles du type ou de la nana que vous avez en face de vous. Le gouvernement argue donc qu'il s'agit d'un pur fichier administratif et non d'un fichier de police. Mais en réalité, un décret notamment de 1978 lié à la question, aux questions biométriques, je vous épargne sa lecture, rend tout ceci fort cocasse ou pas trop, puisqu'en réalité il sera très facile pour un prochain gouvernement par exemple, ou même celui-ci aujourd'hui, de changer le cadre légal de l'utilisation de ce fichier. En effet, pour changer la finalité de ce méga fichier de données et rendre possible des recherches à partir d'une empreinte digitale ou d'une photo, il suffira à un gouvernement de procéder par décret, en s'appuyant donc sur cette loi de 1978, après avis de la CNIL et examen du Conseil d'État. Et on sait que la CNIL valide plutôt ce nouveau décret. Donc, et le Conseil d'État risque lui aussi de valider ce type de procédure. Donc par exemple, en cas d'attentat, chose qui arrive, ou de faits divers créant une grande émotion, eh bien, on pourra tout à fait, par décret, changer le règlement de celui-ci et donc rechercher directement les identités et obtenir toutes les informations sur un ou une individu. Alors, justement, le 6 mars 2012, le futur et actuel ministre de la Justice, Urvoas, qui défend donc aujourd'hui ce décret, semblait bien conscient des dangers liés à ce type de fichier, et il disait même, je cite, je ne sais pas l'imiter, d'ailleurs je n'ai jamais entendu sa voix je crois, « Ce texte contient la création d'un fichier à la puissance jamais atteinte dans notre pays puisqu'il va concerner la totalité de la population. Aucune autre démocratie n'a osé franchir ce pas. » Or, qui peut croire que les garanties juridiques que la majorité prétend donner seront infaillibles ? C'est justement ce qu'on vient de raconter. Oui. Qui peut croire ça ? Aucun système informatique n'est impénétrable. Toutes les bases de données peuvent être piratées. Ce n'est toujours qu'une question de temps. Au passage, ces deux ou trois dernières années, il y a toutes les données relativement similaires qui avaient été compilées en Turquie pour les citoyennes et citoyens turcs qui ont été piratées par des hackers. Même chose pour les Philippines. Et un autre individu qui n'est pas du tout ministre mais membre de l'association pour les libertés numériques, la Quadrature du Net, nous rappelle: quand un outil existe, il est très dur d'en limiter l'usage à des fins de surveillance délimitées. Et il ajoute: c'est quelque chose que l'on a bien vu ces dernières années, notamment avec la loi renseignement qui légalisait des pratiques déjà existantes. Ce décret s'inscrit dans la même fuite en avant technicienne. On autorise une nouvelle technique, un nouveau fichier, tout d'abord dans un cadre technique précis, et ensuite on l'élargit peu à peu. À l'époque, certains membres actuels du gouvernement, donc en 2012, quand avait été retoqué ce premier projet, qui avait été particulièrement donc ces élus socialistes de l'époque, aujourd'hui au gouvernement, opposés à cette loi, la qualifiaient même de vichyste, et ils rappelaient que la France n'a créé qu'une seule fois un fichier général de la population, c'était en 1940, sous Vichy. Il fut d'ailleurs détruit à la Libération. Voilà donc sur ce nouveau fichier qui fait quand même un petit peu beaucoup flipper, puisque tout le monde est désormais surveillé. Mais peut-être que le problème, c'est que monsieur ou madame tout le monde nous dit très souvent qu'il n'a rien à se reprocher.
Bienvenue dans le meilleur des mondes.
Et donc, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des groupements d'intérêts privés et publics qui se mettent en place entre le Parti Socialiste et certaines miroiteries dans certaines villes. Parce que figurez-vous que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, les permanences du Parti Socialiste sont l'objet de dégradations. Les vitrines tombent, les vitrines cassent, les vitrines disparaissent. Après la semaine dernière à Saint-Étienne, c'était cette semaine, donc ce samedi, à Orthez, dans le Béarn, une petite ville bien connue, où la vitrine du Parti Socialiste a été complètement détruite dans la nuit de vendredi à samedi. Les représentants du PS qui étaient présents sur place le samedi matin parlent d'un acte d'incivilité sans aucune volonté de parti pris politique. Donc on se demande bien pourquoi, dans cette rue, c'est la vitrine du PS qui a pris. Peut-être cela a-t-il un rapport avec ce qui se passe à Calais.
Sans papier.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe. Forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border.
Et donc on continue à parler de Calais. Parce que mercredi dernier, donc c'était le 2 novembre, a eu lieu l'expulsion des mineurs de la jungle qui avaient entre-temps été hébergés dans un centre d'accueil provisoire, dans un camp de conteneurs à côté de l'ancien jungle qui avait été rasé entre-temps. On parle de 1616 mineurs, pour la plupart afghans, soudanais, éthiopiens et érythréens, qui ont été mis sur 38 bus pour quitter Calais. Ils vont être envoyés dans des CAOMIE, des centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés étrangers, un peu partout en France. De là-bas, c'est que le Home Office du Royaume-Uni aura choisi pour rejoindre le Royaume-Uni. Les autres resteront en France. Comme ils ont été triés au faciès comme mineurs, du coup, en dehors de toute procédure légale et même des pratiques quand même très, très, très discutables et très critiquées, des tests osseux ou quoi que ce soit, donc ils ont juste choisi t'es mineur, t'es pas mineur. En fait, rien ne dit que l'aide sociale à l'enfance du département où ils seront les reconnaîtra comme tels. Donc, ils vont être envoyés là, dans tel département. On ne sait pas ce qui va se passer après. Coupés des associations qui suivaient leur situation, ils seront sans soutien indépendant si l'administration met des obstacles à l'accès à leurs droits. Sachant que c'est des mineurs qui avaient été suivis pendant des mois et des mois par des associations présentes à Calais. Donc, qu'est-ce qui va se passer de leur dossier? Comment ça s'est passé, cette expulsion? En fait, les mineurs ont été mis sur des bus sans aucune information. Ils ne savaient pas dans quelle ville ils seraient partis. Les règles du droit de la protection de l'enfance n'ont pas été du tout respectées. En fait, dans les bus, pour accompagner les enfants et les ados, il n'y avait pas de travailleurs sociaux, il y avait un traducteur, deux fonctionnaires du Home Office du Royaume-Uni pour faire croire aux jeunes qu'ils allaient peut-être en Angleterre, et deux pompiers. Donc, sachant que jusque-là, depuis des mois, ces mineurs avaient été soi-disant accueillis dans des conteneurs du centre d'accueil provisoire, où 6 travailleurs sociaux encadraient 1116 mineurs. Donc, dans le meilleur des cas, un travailleur ou un travailleur social était responsable de 270 ados. Ce qui s'est passé, c'est que une partie de ces jeunes ont été dispersés alors qu'ils avaient accompli toutes les procédures qui leur permettaient de passer en toute légalité au Royaume-Uni. Donc, c'est des procédures qui prennent en compte la présence de familles proches au Royaume-Uni. Il y a une partie de ces mineurs qui ont le droit légalement de passer au Royaume-Uni. Comme ils étaient dans le tas, eux aussi, ils ont été envoyés dans des CAO ailleurs, à Montpellier, à Strasbourg. Donc, qu'est-ce qui s'est passé les 2 novembre? L'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, les avocats du groupe d'information et des citoyens des immigrés, le GISTI, et les syndicats des avocats de France ont déposé un référé de rancœur, c'est-à-dire en grande urgence, contre Fabienne Bouchot, la préfète du Pas-de-Calais. qui a été audiencé le 3 novembre au tribunal des grandes instances de Boulogne-sur-Mer. Le motif, c'est que ce déplacement de mineurs se faisait en dehors de tout cadre légal, tout comme l'avait été leur hébergement dans les camps des conteneurs et comme le sera celui dans les centres d'accueil d'orientation. Parce qu'en effet, tout ce qui concerne des mineurs isolés en France doit être fait avec l'avis du parquet et l'avis et la décision du juge des enfants. Les mineurs devraient être accompagnés dans tout déplacement par un représentant légal et un administrateur ad hoc. Donc tout ça n'a pas eu lieu, on était en dehors de tout cadre légal. L'audience a eu lieu hier, donc, et le tribunal des grandes instances de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours parce qu'il s'est estimé incompétent pour juger l'affaire, qui relevait selon lui du tribunal administratif. Sachant que le TGI, le tribunal des grandes instances, est censé statuer sur des questions concernant les libertés fondamentales des individus. Donc ça, selon le TGI, ce n'était pas une question de la liberté fondamentale. Donc, les opérations sont terminées hier par l'évacuation des dernières personnes. C'est le lieu de mise à l'abri des femmes et des enfants du centre Jules Ferry. D'abord sont parties les femmes seules avec enfants, puis les familles comprenant un homme ou un adolescent. Sachant que, comme il y avait beaucoup d'hommes qui sont partis les jours auparavant, il y a quand même un certain nombre de familles qui a été séparée. Il n'y a pas eu de recherche faite pour rassembler ces personnes, sachant que l'expulsion a eu lieu très très très rapidement. Les dernières à partir ont été les femmes et les filles mineures seules. Donc presque toutes se sont déclarées mineures, mais comme il n'y a pas eu aucun contrôle légal de effectivement l'âge des unes et des autres, en fait il y a eu un trio faciès. Les personnes qui ont été en première considérées comme mineures sont montées dans un bus pour un centre d'accueil et d'orientation pour mineurs. Et après, aux autres, on a dit qu'en fait, il n'y avait plus de place. Donc, elles étaient juste parties pour un centre pour majeurs. Donc, tout ça, l'évacuation des mineurs, donc, c'est une opération qui a permis d'évacuer 1800 personnes en 8h30. Sachant qu'à partir de ces moments, ça va être très très compliqué de suivre l'essor de ces personnes. Cette opération a permis d'invisibiliser tout ce qui s'était passé avant et pendant l'expulsion de Calais. On essaiera de vous tenir informés sur les suites, mais cette dispersion, ça rend hyper hyper compliqué le suivi journalistique de cette situation.
Oui. Ouais, juste un petit détail, en plus on nous parle d'un truc super humain, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'expulsion donc, des majeurs la semaine dernière et qu'en fait il y avait un pont, ça n'a échappé à personne ces débuts de semaine et que du coup il y avait un certain nombre de CAO qui ne fonctionnaient pas parce qu'en fait les gens étaient en congé. Donc du coup, ça rajoute un petit peu
dommage.
À l'ignominie tout le bordel.
Ça c'était pour le suivi donc, de l'expulsion de Calais et maintenant on va vous parler de la mobilisation pour loger des migrants et migrantes dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, à côté de la frontière italienne.
Et malheureusement on va surtout parler de la répression de cette mobilisation. Donc le 23 novembre, en fait, deux habitants de la vallée de la Roya seront jugés pour avoir porté secours à des migrants et des migrantes. Ils comparaîtront au tribunal de Nice pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier. Donc, juste pour contextualiser géographiquement, la vallée de la Roya se situe entre la France et l'Italie, au nord de Nice, à côté de Vintimille. Donc, cette région est devenue le nouveau point de passage des migrants vers la France depuis la fermeture de la frontière à Vintimille le 15 juin 2015. Donc, ne pouvant plus rejoindre Montauban en France par la côte, les migrants et migrantes empruntent des voies toujours plus dangereuses, des tunnels ferroviaires, des autoroutes. Le 9 octobre, une adolescente érythréenne est décédée parce qu'elle a été fauchée par un camion à quelques mètres de la frontière française. D'autres essaient de passer la frontière par la montagne, malgré les patrouilles de militaires qui sont présentes. Et depuis le 15 juin 2015, la vallée de la Roya voit chaque jour des dizaines et des dizaines de migrants et migrantes se perdre sur les routes et les chemins de montagne, essayer de trouver la route pour la France. Donc il y a des habitants et des habitantes de cette vallée qui spontanément ont décidé de venir en aide à ces personnes malgré une pression politique, policière et judiciaire croissante. Ils sont organisés au sein de l'association Royale Citoyenne et ils refusent d'abandonner les migrants souvent affamés et perdus au bord des routes. Donc au départ, ces actions étaient très discrètes et de plus en plus, et notamment suite à la répression policière, ces actions se montrent au grand jour pour contrer la répression des autorités. Donc deux personnes sont accusées, l'un de ces prévenus qui habite à Breil-sur-Roya accueille régulièrement des migrants chez lui. Et avant de leur, il les aide aussi à passer la frontière. Il a déjà été arrêté pour des faits similaires en août lors d'un contrôle routier. Donc, pour rappel, l'infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, du coup, les personnes qui sont accusées de cette infraction risquent jusqu'à 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Sauf si l'aide apportée ne donne pas lieu à rétribution et vise à préserver la dignité et l'intégrité physique d'une personne. Ça, c'est quelque chose de très très compliqué à prouver. Donc en août, cette personne accusée avait été acquittée. En fait, le procureur avait abandonné les poursuites à son encontre. Mais lors de cette nouvelle inculpation, le procureur a aussi retenu une occupation illégale de locaux privés. Parce que, en fait, l'association Royale Citoyenne avait ouvert un squat pour héberger des migrants et des migrantes à Saint-Dalma-de-Tonde, un autre village de la vallée. Donc le 17 octobre, une vingtaine de militants et militantes avaient occupé un bâtiment, un ancien bâtiment de la SNCF qui avait permis d'héberger pendant quelques jours 50 personnes qui jusqu'avant étaient hébergées chez des personnes, des militantes. Trois jours après, donc, il y a eu une expulsion de la part de la police de ce squat et l'expulsion aussi des personnes qui étaient hébergées là-dedans vers l'Italie. Sachant que la loi française exige la mise à l'abri et l'accompagnement des personnes de moins de 18 ans, une grande partie de ces personnes étaient mineures. La police française, en fait, a cette habitude qui est complètement illégale de renvoyer de nombreux mineurs qui arrivent à traverser la frontière franco-italienne et les expulser vers l'Italie. Juste en les mettant sur un train. Donc, notamment la police italienne ne devrait pas les accepter, mais ces personnes se retrouvent en Italie sans aucun suivi. Dans la ville frontalière de Vintimille, les mineurs isolés représentent le 15% des migrants pris en charge par la Caritas et la Croix-Rouge, des associations caritatives. La plupart ne transitent que quelques jours et échappent à la prise en charge pour essayer de retraverser la frontière. Donc on souhaite tous et toutes aux habitants et habitantes de la vallée d'Araya de poursuivre leur lutte à côté des migrants et migrantes.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Et tout de suite, l'agenda express.
Et oui, et alors, et bien déjà ce soir, on vous conseille d'écouter Noise Pollution, une super émission de métal de 20h à 22h. Tout ça pour être en forme et remonter pour votre journée de demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et bien vous allez pouvoir, à partir de 14h, aller par exemple à la MJC du Vieux-Lyon, qui situe 5 Place Saint-Jean, pour assister à une journée débat sur la critique des médias dans tous ses états. Et notamment à 17h30, vous pouvez rencontrer des animateurs et des animatrices de Radio Canu pour débattre des médias alternatif. Si c'est un sujet que vous connaissez par cœur sur le bout des doigts et que vous n'avez pas envie d'en discuter le samedi, vous pouvez aussi participer à un débat sur les publicités sexistes vecteurs d'oppression qui s'organise dans le cadre du mois libertaire et qui aura lieu à la Plume Noire à 16h. La Plume Noire, on vous rappelle que c'est 8 rue Diderot dans le 1er arrondissement. Et enfin, le soir, il va falloir manger. Et pour manger, vous pouvez vous rendre à Villeurbanne pour une cantine pour cantiner. Ça veut dire pour pouvoir soutenir les prisonniers et les prisonnières pour qu'eux-mêmes puissent manger. Et donc, vous pouvez vous retrouver à 19h30 à Villeurbanne dans le quartier gratte-ciel. Pour savoir où est cet endroit exactement, vous pouvez écrire à cerise comme le fruit @riseup.net. Et donc, pour manger. Et tout de suite, Noise Pollution.
Et surtout, n'oubliez pas,
paniquez pas.
Niquez tout!